Biston klack, biston klack, biston klack, nous aimons la chanson française. Biston klack, mais nous détestons les fadaises, qu'elles soient françaises ou javanaises, la balourdise, ça nous défrise. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, se mêle l'apôtre, cette phrase est notre devise. Notre devise, biston klack, biston klack, biston klack, d'accord pour les chanteurs, poètes. Biston klack, né dans le Rhône ou à Perpète, suffit qu'ils mettent nos cœurs en fête, la poésie n'a pas de patrie. Tout ce qui est humain est nôtre, disait le coin, ce bel apôtre, voilà notre philosophie. Philosophie, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack, biston klack.
L'arbre de Noël des pauvres gens, rut-il d'une espérance d'autant plus précieuse à parler franc, qu'ils ont rarement la chance d'avoir dans leurs quatre murs du bonheur d'enfance nue. L'arbre de Noël, c'est sûr, chez les pauvres est bienvenu. Avec trois fois rien, il vous transforme leur misérable chaumière en maison douillette pour qui dorment. Joseph, Jésus et sa mère, deux guirlandes, une bougie, étoile en papier d'argent, voilà toute la magie du Noël des pauvres gens. Mais je présume que l'enfant Dieu, du haut de son ciel de gloire, reconnaît les siens peut-être mieux, chez ces pauvres sans histoire, mieux qu'au sein des cathédrales, qu'il ne voit pas d'un bon œil, car le luxe qui s'étale, il le suspecte d'orgueil. Il est descendu sur terre pour tous les hommes, il nous l'a dit. Il n'empêche que le chant d'amour qui s'élève d'un taudis, plus que main discours savant sur Noël et son mystère, nous ramène au Dieu vivant qui s'est voulu notre frère. L'arbre de Noël des pauvres gens, rut-il d'une espérance d'autant plus précieuse à parler franc, qu'ils ont rarement la chance d'avoir dans leurs quatre murs du bonheur d'enfance nue. L'arbre de Noël, c'est sûr, chez les pauvres est bienvenu. L'arbre de Noël, c'est sûr, chez les pauvres est bienvenu.
Bonsoir, notre émission Bistan Claque de ce soir est consacrée à différentes chansons et contes de Noël, la façon de Radio Canu. La chanson que vous venez d'entendre, interprétée par André Bonhomme, vous l'avez sans doute reconnu, était un enregistrement réalisé en direct dans ses studios, un 25 décembre, je crois que c'est le 25 décembre 95 ou 97, j'ai pas imprimé ma feuille assez long pour avoir la date de l'année, mais ça a une bonne dizaine d'années en tout cas. Ainsi donc, j'ai appelé ainsi des histoires racontées par des témoins et acteurs dont certains ont un rapport direct avec Noël et d'autres pas. La première histoire, le premier conte de Noël est un récit de Maurice Pepp. Maurice Pepp, les auditeurs ne le connaissent pas encore, mais dans les mois à venir, ils auront l'occasion de l'entendre à nouveau sur nos ondes. En effet, il a bien voulu confier à Radio Canu le récit de son expérience de prisonnier rebelle entre 1939 et 45, et surtout donc le récit de ses trois évasions. Il a donc été un prisonnier rebelle, une espèce plus rare qu'on pourrait le croire, comme il nous le prouvera. Je l'ai rencontré plusieurs fois ces derniers mois pour enregistrer ses propos. Il a aujourd'hui 90 ans, il est donc né en 1918. À l'époque de l'événement personnel qu'il va évoquer en toute simplicité, il avait 15 ans, c'était donc en 1933. C'est une sorte d'histoire d'amour de Noël qui allait durer 64 ans et même au-delà.
Donc à cette époque, c'était donc Noël 1933. Auparavant, j'habitais un petit village, Écursé, 180 habitants. Et mes parents ont décidé de venir habiter à Seloncourt pour se rapprocher du travail chez Peugeot à Valentinier, distant d'environ 2 km. Comme nous étions d'une famille pratiquante, le soir de Noël, sommes allés assister à la messe de minuit, qui se tenait à minuit à l'époque, et nous sommes arrivés. J'étais en sabot, je venais bien du village, je me souviens encore. Mes frères, j'avais deux frères plus jeunes, étaient avec les gamins devant. J'étais avec mon père au deuxième rang des bancs. Moi j'étais au bord de la nef, je me vois là, et mon père à ma droite. Donc les femmes étaient à gauche, comme c'était la mode à l'époque, en chapeau. Bras couverts, et je regarde l'église, c'est nouveau pour moi. Donc je regarde l'église simplement, comme ça, par curiosité. Il n'est pas question pour moi, à cette époque-là, de regarder les filles. On avait été élevé d'une façon très stricte, et les filles, c'était pas mon truc à l'époque. Donc je regarde. Je regarde, je vois la chair, j'abaisse mon regard, toujours par curiosité, pour voir simplement. Il y a là 6 ou 7 jeunes filles de 14 à 17 ans, et mon regard croise le regard de Gabi, que je n'ai jamais vue, que je ne connaissais absolument pas, et ça jaillit à l'instant même. Non pas une seconde c'est court, mais c'est long. Une fraction de seconde, nos regards se sont croisés et je me suis dit, j'aimerais bien communier vers elle. À l'époque, tout le monde, ou presque, allait communier. L'église était archi-comble. Donc je me répète, mais les hommes à droite, les femmes à gauche. Donc l'heure de la communion arrive. Je laisse passer mon père devant moi, puisque on était habitué à laisser passer devant. On arrive donc à la table de communion, on s'agenouille. Je vois Gabi qui s'agenouille près de moi. Et je me dis aussitôt, c'est un vrai coup de chance. La communion s'est passée, chacun est rentré dans son rang. Par la suite, on ne s'apercevait qu'à la sortie de la messe, un petit sourire, peut-être, parce qu'il y avait toujours des bonnes âmes pour tout contrôler, surveiller, et ils voulaient absolument que ces bonnes, que les, non seulement les bonnes âmes soient les leurs, mais les nôtres aussi. Donc jusqu'en 1935, ce n'était que le petit sourire. En 1934 d'abord, mon frère me dit, sous les conseils de ma mère certainement, « Tu sais, Maurice, il ne faut pas fréquenter une fille avant d'aller soldat. » Donc il était bien au courant. Je n'ai rien répondu, bien entendu. Ça n'a pas empêché que le petit sourire a continué. Ensuite, le chef de chorale est venu me trouver à la sortie de la messe et m'a dit, « Maurice, tu devrais venir à la chorale. » J'ai dit, « Mais oui, mais je viens de perdre mon frère. » Au contraire, il m'a dit, « Prier, chanter, c'est prier deux fois. » Donc, me voilà à la chorale. C'est là que, la première fois, nous avions réunion, répétition de chorale. Les deux groupes, hommes et femmes, on arrivait de près de Pâques. Sans quoi, les femmes avaient répétition le mercredi et nous le vendredi, les hommes. Et lorsque nous avions répétition le vendredi, répétition générale, femmes, hommes, les femmes sortaient à 10h. Et les hommes sortaient à 10h15. Ce qui fait que, lorsque je suis sorti la première fois de la répétition de chorale, Gabi avait dû m'attendre un quart d'heure. Et c'est comme ça que nous avons débuté. Simplement comme ça, sur une fraction de seconde d'un coup d'œil. Par la suite, ça a suivi le cours heureux, je dis bien heureux. J'ai été bien accueilli chez mes beaux-parents. Je n'ai jamais été le gendre. J'étais le fils de la maison. Et Gabi me disait, on aura un problème les deux, problème de couple, je suis certain que c'est toi qui le soutiendrais.
Et elle aussi avait eu la même impression que
moi. Et Gabi a eu la même impression que moi.
Cette première...
C'est ce qui fait que on s'est retrouvés. Gabi, dans le même moment, avait eu également cette même impression. Dans cette fraction de seconde où nos regards se sont croisés, nous nous étions transmis un message. Ça paraît extraordinaire. Je ne veux pas dire incroyable, mais vrai.
Tout cela prélude à une histoire d'amour qui durera jusqu'en
97, oui, le départ de Gabi, oui. Oui, c'est vrai. Et dans toute notre vie, je me plais à le dire, nous n'avons jamais eu un mot. Je dis bien, j'insiste, un mot plus haut que l'autre. Jamais. Mais nous parlions beaucoup. On avait plaisir à se parler. La conversation pour nous, c'était énorme. Beaucoup. À preuve, nous n'avons jamais mis de radio dans nos voitures. On avait le poste de radio dans la valise, mais on aimait parler d'abord. Oui, c'est vrai que ça paraît un peu bizarre, extraordinaire, et pourtant c'est de l'authentique. Et cela jusqu'en 1997, malheureusement. Heureusement pour nous d'avoir vécu ce roman d'amour. Ça a été vraiment le roman d'amour. Oui. Voilà.
Merci.
C'est Noël ce soir, il m'arrive. Va falloir que tu fasses le petit. Il est pas loin, 11h30, ne t'endors pas sur le rôti. Le christianisme, il faut se le faire. Dans une demi-heure, c'est parti. Et comme c'est toi qui seras sa mère, faut tout de même que tu fasses le petit. Si j'avais su que tu sois une sainte, dès le premier jour, moi, je serais parti. Et maintenant, ça y est, t'es enceinte. Ce que t'as de mieux à faire, c'est le petit. Je sais bien, la paille est pas sèche, le bourricot a l'air abruti, le bœuf aussi parle d'une crèche. N'empêche qu'il faut que tu fasses le petit. Il y a déjà les bergers qui rappliquent. Faut pas les laisser venir pour rien, c'est pas grave, mais ça serait pas chic, c'est des bergers. C'est pas des chiens. Ça te gêne que les bestiaux te regardent? Ils voient presque rien, il fait nuit. Mais à présent, faut plus que tu tardes. Faut te démerder de le faire, ce petit. Si tu accouches après les fêtes, ça sera fini, ça sera foutu. Tu n'en fais jamais qu'à ta tête, Marie, je ne te le répéterai plus. Tu te conduis comme une vraie pucelle. Écoute un petit peu ce que je te dis. Tu vas gâcher la nuit de Noël si tu fais pas tout de suite le petit. Enfin, ça y est, t'es raisonnable. Te tracasse pas, tout se passera bien. Dès que t'as fini, moi, je passe à table, bouffe à tout seul, il y a presque rien. C'est pas marrant, mais il faut que ça se fasse. Encore un petit coup, c'est gagnant. Ça y est, voilà l'auréole qui passe. Il est né le divin enfant.
Vous venez d'entendre Bernard Dimet qui disait « C'est Noël », notre deuxième conte de Noël, si l'on peut dire. Vous écoutez bien Radio Canus en 2.2 MHz, l'émission Bistantlac, ce soir du 29 décembre 2008, consacrée à des contes de Noël de Radio Canus. Le conte suivant est une histoire de résistance, sans rapport direct avec Noël. C'est Roger Dauphin qui nous l'a confié, ce récit, lors d'un entretien réalisé. Et en fait, c'est une histoire de résistance postérieure à la guerre. Nous l'avons déjà diffusée, mais nous vous la reproposons ce soir. Elle est tout à fait succulente. Roger Dauphin, nous vous proposons de l'entendre à nouveau dans un extrait de l'entretien qu'il nous a bien voulu nous accorder. Et cet extrait va devenir un conte de Noël de Radio Canu pour nos auditeurs. Puisqu'en fait, il s'agit d'une histoire vraie, qui se déroule sur fond de fin de la guerre et encore d'action de résistants. Nous remercions Roger Dauphin de sa participation à l'émission et nous vous laissons l'entendre.
Quand vous êtes marqué, et je crois que je suis marqué, hein, quand on est marqué, je crois que ça se sait, ça se suit. Et on dit, celui-là, il est marqué. J'avais une fiche au renseignement généraux autrefois, je sais pas si je l'ai toujours, qui disait agitateur dangereux. Alors, agitateur dangereux. Ben, pourquoi? Parce que, bon, c'est une autre histoire, j'avais enlevé Serge Liffard. Même l'histoire de Serge Liffard, ça s'apparente à tout ce que nous disons. Bon, qu'est-ce qui s'est passé? Serge Liffard, comme vous savez, a fait visiter l'Opéra de Paris à Hitler. Enfin, le jour où Hitler a dû visiter au petit matin Paris, Serge Liffard, bon, Serge Liffard qui a continué à danser pendant la guerre, etc., etc. Bien. Sur la libération, Serge Liffard, qui était comme par hasard devenu secrétaire du syndicat CGT, du corps de ballet de l'Opéra, ou je ne sais trop quoi. Bon, terminé. Serge Liffard vient danser à Saint-Étienne. J'étais journaliste d'un journal de Saint-Étienne à ce moment-là, c'était donc en 1950, je crois. On annonce un spectacle de Serge Liffard à Saint-Étienne. J'avais été précédemment président des organisations de résistance de la Loire, mais fonction que j'avais abandonnée aussi. Mes camarades de la résistance de Saint-Étienne font une belle proclamation en disant « Non, Serge Liffard ne dansera pas à Saint-Étienne. » Serge Liffard, qui a fait visiter l'Opéra Hitler, qui a été collabo, ne dansera pas à Saint-Étienne. Et ils organisent une manifestation devant le théâtre, ou ce qui servait de théâtre d'ailleurs à Saint-Étienne à l'époque, où devait se produire Serge Liffard. Le préfet de l'époque, je ne dirai pas le nom, peu importe, qui n'avait pas sans doute beaucoup cet esprit de résistance, a mobilisé je ne sais combien de centaines de CRS qui ont joyeusement matraqué mes copains. Moi, je n'ai pas participé à la manifestation, parce que je trouvais qu'elle était idiote. Bon. ils ont organisé cette manifestation, on leur a envoyé les CRS, qui les ont matraqués, qui ont dispersé la manifestation, bien. Et Serge Liffard a dansé à Saint-Étienne. Je suis journaliste et j'assumais, entre autres rubriques à ce moment-là, les rubriques du théâtre, le journal à Saint-Étienne. Donc, j'ai assisté au spectacle de Serge Liffard, qui sur le plan artistique était une belle chose, bien sûr. J'étais dans une loge, parce que j'avais droit à une place de loge comme journaliste, avec un certain nombre de bons bourgeois de la ville de Saint-Étienne, et pendant tout pas le spectacle, parce que pendant qu'ils dansaient, ils ne parlaient pas, mais à l'entracte, au foyer, j'ai entendu ces gens dire « Vous avez vu, ils se trouvent, croyez, encore en 44, hein, on leur a donné une leçon, etc. » Bon, et je suis parti fou furieux de ce truc en me disant « On l'aura, on s'est encore fait avoir. » Et je suis arrivé au journal, et j'avais là 3 ou 4 camarades qui m'attendaient, parce qu'ils avaient été photographiés pendant les manifestations, le coup classique, ils me disent « Tu ne veux pas t'arranger pour qu'on mette des bandeaux sur nos yeux, pour pas avoir d'ennui. » Et je leur ai dit « Bon, je le ferai, mais vous êtes des idiots. Bon, on ne fait pas un truc comme ça, vous vous êtes ridiculisés, toutes les bourgeoisies ex-pétinistes de Saint-Étienne, maintenant fait des gorges de chaude de votre échec, parce que Serge Liffard a dansé, et que vous vous êtes fait matraquer. » Ah bon, mais qu'est-ce qu'il fallait faire? Je dis, ben, quand on dit « il ne dansera pas », on s'arrange pour qu'il ne danse pas. Bien. Ah oui, mais... Ben, je dis, bon, alors, toujours dans ma fureur qui remontait, comme je suis un passionné, vous le sentez, et que ça n'a jamais passé, à 78 ans, emporté par mon élan et par ma fureur, je leur dis, est-ce que vous avez une voiture? Oui, on a, il avait une vieille traction, 9 chevaux. Donc, encore une fois, ça se situe en 50 ou 51. Eh ben, on va réparer ça. Allez, venez avec moi. Bien. Je suis allé à la sortie du théâtre. Parmi les flics qui assuraient le maintien de l'ordre, il y avait un gars qui avait été au maquis. Autrefois, je l'ai vu, je dis, il va où? Il me dit, il va à Lyon, mais je vous ai rien dit, d'accord? Bien. Et on est parti avec cette vieille 9 chevaux, sur la route de Lyon. Et on a attendu. Et à la sortie de Saint-Étienne, dans le quartier Saint-François, il n'y avait pas l'autoroute encore à ce moment-là. Quartier Saint-François, on a vu arriver Liffard qui venait à Lyon, qui dansait le lendemain à l'Opéra de Lyon, il y avait 2 taxis qu'il avait fait venir de Lyon pour les chercher, parce qu'il y avait lui, il y avait Yvette Chauviret, il y avait, enfin, je ne sais plus qui, Max Bozzoni, enfin, je me rappelle des noms, des 2 ou 3 qui étaient là. Ils étaient dans 2 taxis protégés par la police, c'est-à-dire une voiture de police devant avec un commissaire de police, des motards et une voiture de police derrière. Mais à la sortie de Saint-Étienne, à la limite de la ville de Saint-Étienne, le commissaire de police a dit, monsieur, moi j'ai fait mon boulot, maintenant vous partez. Et nous on était devant. Bien. Donc on a foncé, et dans une ligne droite, que j'appelle depuis la route Serge Liffard, dans une route droite à l'entrée de Saint-Chamond, Isieux exactement, la ligne droite, on a péniblement, avec 9 chevaux, on arrivait péniblement à tenir là devant. Et j'ai dit au copain qui conduisait, je lui ai dit, tu te mets en travers de la route. Bon, on s'est mis en travers de la route, je suis descendu, j'ai arrêté les 2 taxis, et j'ai dit, monsieur Serge Liffard, hein. Alors il me dit, oui, qu'est-ce que c'est? Je lui ai dit, bon, ben, vous avez marqué le premier point, à nous maintenant, nous sommes la résistance, et de descendre de taxi. Une trouille intense, hein. Il me dit, je tiens à vous prévenir que je suis au syndicat CGT des metteurs en scène. Je lui dis, c'est vraiment pas de peau pour vous, moi je suis pas communiste. Bien. Et je l'ai embarqué. Je l'ai embarqué sans savoir ce que j'allais en faire. Je l'ai embarqué, je l'ai mis dans la 9 chevaux, j'ai fait descendre 2 copains qui étaient là avec moi pour prendre place dans les taxis derrière, et puis je l'ai mis embarqué dans notre voiture. Puis une fois que je l'ai eu dans la voiture, si j'avais une idée, c'était de l'emmener s'agenouiller devant un monument de la résistance. Bien. Mais je suis journaliste avant tout. C'est quand même un gros coup. Hein, à enlever Serge Liffard, enfin, il faut en faire quelque chose. Il me faut une photo. Alors on est allé à Saint-Chamond, où le correspondant, il y avait un correspondant du journal auquel j'appartenais à l'époque, je suis allé le réveiller, parce que tout ça nous avait amené à minuit ou 1h du matin, je suis allé le réveiller, je lui dis, j'ai besoin de vous pour faire des photos. Ah bon, il va commencer à s'habiller, pourquoi? Je lui dis, j'ai enlevé Serge Liffard. Il y a la réaction du type qui m'a quitté la veste qu'il avait en train d'enfiler en disant, oh là là, moi je ne veux pas être mêlé à cette histoire-là. Bien. Pendant ce temps-là, la voiture était dans la rue, parce que j'avais envoyé les 2 taxis avec les copains nous attendre à la sortie de Saint-Chamond, et il y avait dans la rue la voiture avec Liffard à l'intérieur. Et je vous assure, ce que je vous raconte, je n'invente rien, le copain qui avait la voiture m'a dit, oh, bah, il va quand même relever mon numéro de voiture, et il prend un morceau de chiffon et avec un bouchon, il fait un faux numéro qu'il accroche sur sa plaque minéralogique. Et à ce moment-là, passaient dans la rue deux agents de police armés qui ont vu cette voiture, qui ont vu ces gars à l'intérieur et qui pudiquement sont partis sans rien dire. Et Serge Liffard n'a absolument pas pipé. Il aurait suffi qu'il crie à ce moment-là au secours pour que l'aventure soit terminée. Il n'a pas pipé. Et moi, je suis remonté dans la voiture en attendant, parce que le copain, le correspondant de coin, va dire, mon fils est plus jeune, il va arriver par le train, le dernier train de Lyon, vous allez lui demander s'il veut le faire. Donc, on est resté dans la rue pendant, je sais pas combien de temps, à attendre l'arrivée du train. Et j'ai discuté avec Serge Liffard de son spectacle, puisque j'y avais assisté. Donc, j'ai discuté du spectacle avec lui. Bien. Puis, le fils est arrivé, il n'a pas voulu être mêlé à l'affaire. Je suis reparti toujours avec mon Liffard dans la voiture, avec les deux autres taxis qu'on a retrouvés à la sortie, et on est allé à ce moment-là à Rive-de-Gier, où j'ai réveillé le correspondant de Rive-de-Gier, sans lui dire de quoi il s'agissait. Là, prudent, je lui ai dit, j'ai un gros truc, il y a des photos à faire, et il m'a dit, bon, il a pris son appareil, c'était encore l'époque où il y avait les flashs, enfin les lampes, hein. Il me dit, j'ai que deux lampes, tu vois, ça suffira. Et on est parti. On a retrouvé, une fois qu'il était dans la voiture, je lui ai dit, je vous présente Serge Liffard, je l'ai enlevé, gueule du gars, mais une fois qu'il était dans la voiture, bien. Et on est allé à Pont-Rompu, entre Rive-de-Gier, dans les montagnes russes, vous savez, après Rive-de-Gier, dans l'ancienne route de Lyon, quoi, les montagnes, où il y avait là Mornant, un monument de la résistance, il y avait eu des combats, il y avait à Mornant, il y avait un monument de la résistance, et j'ai fait s'agenouiller Liffard devant le monument de la résistance. Alors là aussi, c'était épique, parce que on l'éclairait avec des briquets et des lampes de poche pour que le gars puisse viser sa photo. Hein. Il prend une première photo, il fait partir le flash avant d'avoir pris la photo, et il prend finalement une deuxième photo, et il part, et enfin je le laisse repartir, enfin non, je l'ai ramené d'ailleurs, et Liffard, et alors Liffard, c'est après être resté pendant je sais pas combien de temps agenouillé sur le monument, parce que le temps qu'on règle tout ça, il est toujours agenouillé devant son monument, hein. Et il s'est levé après, il m'a dit, sans rancune. J'ai dit, allez, ça suffit, comme ça, foutez le camp. Et je l'ai libéré. Et évidemment, j'ai téléphoné tout de suite au journal pour qu'on me garde la une pour les dernières éditions, pour annoncer l'enlèvement de Serge Liffard. Et le lendemain, le chef de la sûreté de Saint-Étienne, le commissaire principal Richard, je me souviens encore, à 50 ans d'intervalle de son nom, je passais dans la rue, là, à côté du commissariat Saint-Étienne, et je vois un inspecteur de sûreté qui me bondit dessus, puis, monsieur Dauphin, le patron voudrait vous voir, justement. Et je suis venu, et ça a commencé l'entretien comme ça. Le commissaire dit, vous savez peut-être que j'appartiens à la résistance, alors, comme vous êtes occupé beaucoup de ces questions-là, je voudrais que vous me donniez des conseils pour établir ma demande de carte de combattant de la résistance. Bien. Puis là-dessus, il enchaîne, il me dit, quand vous m'avez fait une peur cette nuit, vous m'avez fait une de ces peurs cette nuit. Moi, quoi, hein? Puis l'enlèvement de Serge Liffard, tu vois. Moi, je suis journaliste, j'ai suivi, hein. Je savais qu'il se passait quelque chose, je suis allé voir ce qui se passait. Il me dit, écoutez, tout le monde sait que c'est vous. Hein? Tout le monde le sait que c'est vous. Tu vois. Prouvez-le. Moi, je suis journaliste, il se produit un événement, je l'accompagne. Et puis je fais un papier là-dessus. Bon, du coup, ça va. Il me dit, vous comprenez? Alors il me dit, moi, ce qui m'inquiétait le plus, c'est qu'il avait 2 millions sur lui, de l'époque. 2 millions sur lui, des cachets qu'il avait touchés. Mais quand on m'a dit que c'était vous, je dis, ça va, on est tranquille, il n'y touchera pas. Et le seul qui me l'a reproché après, c'était mon ami Marcel Rivière, que tu as sans doute connu, qui était le rédacteur en chef du Progrès, parce que j'ai appris après que lui, il l'attendait à l'entrée de Lyon pour l'enlever, et qu'il n'a pas pu le faire, parce que j'avais fait le coup avant lui. Et alors, depuis cette date, j'avais une fiche aux renseignements généraux, qui disait individu dangereux, instigateur de l'enlèvement de Serge Liffard.
Et Liffard n'a pas porté plainte.
Non, c'est le seul qui a gagné de l'argent dans l'affaire. Parce que moi, il a vendu le récit de son enlèvement à France Dimanche ou à Samedi Soir de l'époque, je ne me souviens plus. Parce que moi, le lendemain matin, j'ai reçu un coup de téléphone de Lazareff personnellement, qui m'a dit la photo à n'importe quel prix. Hein. Et le gars de Rive-de-Gier avait tellement eu la trouille. Il m'a dit qu'il l'avait raté, à mon avis, il l'avait détruit.
Ouais. Déjà vendu.
Je lui ai dit, non, il n'y a jamais eu de photo. Et je lui ai dit, vous avez perdu une belle occasion de gagner de l'argent. Là. Bon. Et en revanche, Serge Liffard a raconté longuement, moi j'ai raconté son enlèvement, bien sûr, parce que le premier jour, c'était un flash à la une avec Serge Liffard enlevé. Puis le lendemain, c'était le récit sur une page ou presque de l'enlèvement de Liffard avec tous les événements. Bien. Et il a passé, lui, le récit dans, je crois que c'était samedi soir, c'était pas piqué des hannetons d'ailleurs son récit, il m'appelait l'intellectuel de la bande, encore une fois, avec l'intellectuel de la bande qui semblait en être le chef, j'ai eu une longue conversation, ce qui était vrai, sur mon spectacle, etc. Et racontait son, le récit quand j'avais arrêté les taxis, en disant, messieurs, ce ne sont pas vos armes qui me feront peur, disait-il, se plaçait-il dans sa poche, alors qu'évidemment, des armes, pas l'ombre du... Voilà. Donc, et depuis, et alors j'ai su cette histoire de fiche des renseignements généraux, parce que, quelques années plus tard, des amis de Rive-de-Gier, toujours, on tombe dans ce coin de Rive-de-Gier, les amis de Rive-de-Gier étaient poursuivis dans le tribunal militaire de Metz, pour avoir abattu des policiers collabos à la Libération. Et j'étais témoin de moralité dans ce procès devant le tribunal militaire de Metz. Et donc, leur avocat, qui était bâtonnier de Saint-Étienne, avait eu communication du dossier. Et dans le dossier, il avait trouvé cette fiche qui disait « Parmi les témoins figure un individu dangereux, instigateur d'enlèvement sur Serge Giffard, et disait-on, susceptible d'abattre ou d'enlever Roy en cours d'audience. » Alors je précise Roy, il est toujours vivant, s'il m'entend tant mieux. Roy était un inspecteur de police de Lyon, d'ailleurs, qui, à Rive-de-Gier pendant la guerre, a travaillé pour la Gestapo, a arrêté les résistants, les a matraqués, etc., les a livrés aux Allemands, et qui, à la Libération, s'en est très bien tiré. Et il faisait partie des deux que les gars ont essayé de descendre, et ils l'ont raté, lui. Et des années, 10 ans plus tard, il était revenu dans la police, dans la brigade mobile de Lyon.
On est un salaud, un vrai, un pur, un beau. On se met au service de la maison Himmler, de la maison Himmler. Puis on fait le serment d'obéir totalement, quels que soient ses caprices, aux ordres du Führer, aux ordres du Führer. La croix gammée sur l'œil, on montre avec orgueil qu'on est un grand champion dans la course à l'abjection. Voilà les gars de la vermine, chevaliers de la bassesse, voilà les Waffen-SS, voyez comme ils ont fière mine, c'est dans le genre fabuleux ce qui se fait mieux. Avant qu'on ne les extermine, regardez-les consciencieusement. Voilà les gars de la vermine, du plus petit jusqu'au plus grand, du Saint-Voyou à Darnan, ils sont allemands.
Les oies qui traînent dans le bourg, ainsi que les commères grasses colportant les potins du jour en troupeau inquiet, s'amassent. Un gros jard qui marche devant allonge son cou dans la brume et frissonne au souffle du vent de Noël qui gonfle ses plumes. Noël, 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 Noël. Est-ce au ciel neige folle qui dégringole, ou fin du Védois qui vole? Leur petit œil rond et hébété a beau s'ouvrir sans trop comprendre sur la très blanche immensité où le bon Noël va descendre. À la tournure du ciel froid, aux allures des gens qui causent, les oies sentent pleines d'effroi qu'il doit se passer quelque chose. Noël, Noël, Noël. Est-ce au ciel neige folle qui dégringole, ou fin du Védois qui vole? Les flocons pâles de Noël, papillons de l'hiver qui trônent comme des présages cruels, s'agitent devant leur bec jaune, et sous leurs plumes un frisson court qui jusque dans leur chair se coule. L'heure n'est guère au calembour, mais les oies ont la chair de poule. Noël, 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 est-ce au ciel une neige folle qui dégringole au fin du Védois qui va. De grands cris montent parmi l'aube de Noël qui rougeoie comme le Saint-Barthélemy ensanglanté du sang des oies. Et maintenant qu'au poulailler les hommes ont fini leurs crimes, les femmes sur leur devantier dépouillent les corps des victimes. Noël, 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 est-ce au ciel neige folle qui dégringole au fin du Védois qui vole.
Noël, Noël, à l'indigent, il faudrait bien un peu d'argent pour se payer du pain des nippes. Petits enfants, petit Jésus, des argents que vous avez eus, il aurait bourré bien des pipes. Noël, Noël, les amoureux sont bien heureux car c'est pour eux qu'est fait le manteau gris des brumes. Sonnez les cloches, cloches sonnez, le pauvre diable dans son nez entend carillonner les rhumes. Noël, Noël, les bons dévots s'en vont chanter comme des veaux près de l'âne, au pied de la crèche. Notre homme trouverait plus neuf de manger un morceau du bœuf et dit que ça sent la chair fraîche. Noël, Noël, le prêtre dit que Dieu parmi nous descendit pour consoler le pauvre air. Celui-ci voudrait bien un peu boire à la santé du bon Dieu, mais Dieu n'a rien mis dans son verre. Noël, ça sent les réveillons, les bons grands feux pleins de rayons, et la moustifaille et la joie. Le jambon rose au bord tremblant, le boudin noir et le vin blanc, et les marrons pondus par l'oie. Noël, on ferme, allons, va-t'en, heureux encore si Satan, qui chez nous, ces jours-là, s'égare, te fait trouver dans le ruisseau quelque os, où reste un bon morceau, ou quelques moitiés de cigare. Et le misérable là-bas voit la crèche comme un cabas bondé de viande et de victuaille, et dans lequel surtout lui plaît un bon petit cochon de lait. C'est l'enfant Jésus sur la paille. Noël, Noël, les malheureux n'ont rien pour eux qu'un ventre creux qui tout bas grogne comme un fauve. Si bien que le bourgeois voyant leur œil dans l'ombre flamboyant, au lieu de leur donner, se sauve. Ba-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- voyant, au lieu de leur donner ce sauve.
Écoutez Radio Canus en 2.2 MHz, la plus rebelle des radios. Vous venez d'entendre le Noël misérable de Jean Richepin, mis en musique et interprété par Jean-Michel Piton. Auparavant, c'était Les Oies inquiètes de Gaston Goutet, mis en musique et interprété par Gérard Pierron. Et auparavant, après le conte de Roger Dauphin, c'était Mouloudji, Marcel, qui chantait le texte de Pierre Dac sur la chanson Les gars de la marine, Les gars de la vermine. Notre émission est donc consacrée à des contes de Noël, et voici le dernier conte de Noël que nous vous proposons. Il s'agit cette fois-ci d'une histoire de résistance encore, mais au maquis de Malval, à Noël, en 1943. Elle nous a été confiée par le peintre Pierre Bichet, lors d'un entretien réalisé en 1999. Pierre Bichet est décédé cette année 2008, le 18 février. Et nous lui rendons donc ainsi, à cette occasion, hommage avec cet extrait de son récit de son séjour au maquis de Malval. Nous arrivons ainsi à cette période de fin décembre 43, et fin décembre 43, c'est l'approche de Noël, bien sûr.
Écrit quelque part que votre père vous a rendu visite au maquis avant Noël ?
Mon père m'a rendu visite curieusement au maquis, parce que mon père était à... commerçant bourgeois d'ici, mais il était très lié avec le directeur d'une grosse usine qui s'appelait Isorel, ici, c'est un de ses grands amis, et le directeur de cette usine Isorel, parce que de temps en temps j'écrivais un mot à mes parents quand même.
Vous aviez réussi à les renseigner quand même.
Oui, je vous avais renseigné avec des trucs à clé, bon, etc. Et comme cette usine travaillait pour les Allemands, monsieur Werneret, le directeur, avait obtenu un laissez-passer pour descendre en voiture à Grenoble. Et donc, mon père l'avait dit, ah, j'aimerais bien aller avec toi, il avait amené mon père. Mon père savait où j'étais, il a été absolument terrifié de voir dans quelles conditions matérielles je vivais. Et au moins, il m'a plus fait chier avec Verdun après. il m'avait emmerdé toute ma jeunesse avec ces histoires de Verdun. Et son père, déjà, l'avait emmerdé avec les histoires de 70, c'est des traditions françaises ça. Mon père m'a toujours raconté, il m'a dit, tu te rends pas compte, après les éparses Verdun, où il en a bavé, où il a été blessé et tout, il dit, je rentrais en permission chez mon père qui avait été capitaine en 70, et il dit, mais ce que vous souffrez, mais c'est rien du tout. Nous en 70, une nuit, j'ai dû coucher dehors car je n'avais pas de billet de logement. Alors c'était un peu pareil quoi. Mon père il trouvait que je vivais dans des conditions. Il se rendait pas compte ce que c'est qu'une armée irrégulière. Il voyait une armée régulière lui.
Oui, en 14-18, ça ne s'était pas présenté.
Il était désorienté. Il était bien entendu anti-allemand. Il pouvait pas être autrement parce qu'il faisait partie des Français moyens qui étaient anti-allemands. Bon, mais ceci étant dit, il pensait d'ailleurs comme moi. Qu'ayant choisi ce patelin paumé, perdu, que jamais la Wehrmacht ne viendrait là-bas. Qu'est-ce qu'ils iraient foutre dans ce bled perdu ? Que je pensais que la guerre passerait là-dessus, comme au fond du Sahara, quoi. Hein ? Et il a fallu l'arrivée de ces joyeux copains, parce que moi je vivais avec des repris, certains étaient repris de justice qui se planquaient comme bûcherons pour échapper à la police, d'autres étaient bûcherons parce que pour échapper au STO, d'autres assis à ça. Mais quand le maquis est arrivé, moi j'étais content de rencontrer quand même, si je puis dire, dans ce maquis-là, deux, trois intellectuels avec qui je pouvais parler de peinture, de n'importe quoi, de chansons. C'était traîner à ce moment-là, on chantait traîner. On chantait pas le chant des partisans, on chantait Mams et le Clio. C'était comme ça, la résistance, c'était ça aussi. On avait 20 ans.
Mamselle Clio, Mamselle Clio, le premier jour je me rappelle, c'était chez des amis idiots. Mamselle Clio, Mamselle Clio, votre maman avait des ailes, dans une robe de taffetas vous étiez une demoiselle, et je vous murmurais tout bas. Dormir avec vous, dormir une nuit, faire un rêve à deux, quand le ciel est noir au fond de ma chambre. Le sommeil est doux quand tombe la pluie, quand le vent du nord murmure tout bas des cendres. Tous les mots d'amour, le vent nous les dit. Quand la cloche sonne, une heure perdue, lointaine. Oubliez la vie, oubliez nos peines, dormir une nuit, dormir, mon amour, dormir avec vous. Mamselle Clio, Mamselle Clio, vous êtes mariée, c'est ridicule, avec le fils de ces idiots. Mamselle Clio, Mamselle Clio, votre mari est somnambule, il se promène sur les toits toute la nuit, tandis que moi, je dors avec vous, dans le même lit, nous rêvons tous deux quand le ciel est gris, au fond de la chambre. Votre corps charmant se donne à minuit, dans un petit hôtel, tout près de la rue de l'Ambre. Ah, il n'y a pas d'eau courante, et pour faire pipi, c'est au fond de la cour, mais là-bas, il n'y a pas de lumière. Ces petites bêtises me sont familières, je dors avec vous, et pendant le jour, j'attends notre nuit. Mamselle Clio, Mamselle Clio, votre mari dans une crise, m'a flanqué deux balles dans la peau, boum, Mamselle Clio, Mamselle Clio, je suis bien mort, quoi qu'on en dise, oui, mais le diable m'a permis de revenir, toutes les nuits, dormir. Avec vous, sans vous faire peur, caresser vos cheveux, toucher votre cœur, vous dire à l'oreille, je t'aime chérie, je t'aime et j'en meurs, et tirer les poils du petit cocu qui veille. La commode qui grince, un bruit sur le toit, le lit qui gémit, c'est moi dans le bois, ma brune. Je suis courant d'air, et rayon de lune, j'ai l'éternité pour chanter là-bas. Dors avec toi.
Vous évoquez Noël dans... Enfin, ah, vous en avez parlé dans le livre, il a retenu votre témoignage pour le Noël.
Oui, parce que j'ai écrit en 1945, une revue, une petite revue régionale m'a demandé d'écrire un souvenir de ma fille. Il savait que j'avais été dans le Vercors. Et moi, je ne voulais pas raconter des histoires de fier à bras, ni de bagarres, ni de trucs. Et j'ai écrit l'extraordinaire veillée de Noël qui a eu lieu à Malval. Elle a été inoubliable pour tous ceux qui y ont assisté. On ne peut pas imaginer ce qu'était un Noël de Maquisard avec la population, mais fraternellement rassemblée. Chanter, il y avait un petit côté religieux parce qu'il y a eu quand même une messe de minuit, il est dit par un curé. Et puis, on avait mis des grands rideaux, on avait emprunté des draps aux paysans pour fermer le chœur. Puis on avait fait la revue du Maquisard, alors. Et puis on avait chanté nos chansons, et puis tout le monde avait pris, les paysans étaient venus avec un peu à bouffer, quoi, c'était extraordinaire. Ils en ont tous gardé un grand souvenir, encore. Ce que je revois, les vieux, maintenant qui y étaient, où les enfants des vieux en parlent encore, c'était extraordinaire. C'était peut-être le... Peut-être est-ce le seul Noël de 43-44, donc le Noël fin 43, qui a été célébré par la résistance en France dans des conditions extraordinaires.
Et là, il y avait ceux qui allaient survivre, puis ceux qui allaient mourir
évidemment.
Un mois après.
Ben, le 29 janvier. Mais ça, c'est... Mais qui allait survivre? On était content de survivre déjà quelques jours, parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est la hantise qu'on a de la rencontre avec les Allemands, avec la Wehrmacht. La hantise. Ou même avec la milice. La milice n'était pas plus tendre que les Allemands. Hein. Alors, ça vous préoccupe. On a une arrière-pensée en permanence. Si on descend dans la vallée pour faire une course qu'on vous a commandée, ou chercher du ravito, ou aller porter un pli, ou même porter des armes, c'est des choses terribles, quoi. C'est brutal. C'est d'une brutalité auquel je... On s'y attendait, mais on savait bien. On vit, quand c'est comme ça, on vit avec la hantise de l'affrontement. Mais on finit par s'habituer, quoi. Puis on est jeune, on a 20 ans, alors...
Est-ce qu'on finit par le souhaiter, l'affrontement, à force de vivre dans l'angoisse de « on va être attaqué »
Oui, mais le problème, c'est qu'on se savait trop faible par rapport aux Allemands. La division Plaum, c'était énorme. Et on faisait de l'entraînement fusil-mitrailleur, fallait aller en haute montagne, dans une forêt perdue, on nous entendait depuis la vallée, quoi. Alors il y avait des miliciens quand même dans la vallée, il y avait tout ça.
Amis, à l'occasion des fêtes de Noël et du jour de l'an, la Légion des volontaires français organise, dans le cadre du Grand Palais, en matinée spéciale, un prestigieux spectacle de cirque avec la participation des plus célèbres attractions du moment. Voici le programme complet de la matinée. Paris-Berlin, pas de gymnastique redoublé, des marches des mercenaires par la musique de la LVF avec le concours de la clique et de la canaille. Grande entrée de clown par les Waffen-SS. Marcel Déa, dans son impressionnant numéro de fil de fer et de corde raide. Le professeur Grimm, illusionniste. Haute école, par le manège des collaborationnistes dressés, présenté par le Goleiter Saugl. Démonstration de retournage de veston, par les moniteurs de l'école opportuniste. Travail au trapèze et au tapis, par le colonel Labonne. Du charme, de l'humour, de la grâce, de la souplesse. Le désopilant Abel Bonnard, de l'Académie française, dans la pédale en folie, sketch burlesque vélocipédique. Pierre Laval, équilibriste à transformation. Tout le monde se mouille, grande fantaisie nautique, par les nageurs diplômés de Vichy. Sensationnel match de Pancras, disputé au finish par Jacques Doriot et Marcel Bucard. 15 minutes de fou rire, avec la grande pantomime comique, travail, famille, patrie, par toute la troupe. Et pour terminer, la musique de la Légion exécutera, sans tambour ni trompette, marche à pas feutrés, et en revenant de Moscou, retraite précipitée. En raison des circonstances et par courtoisie envers le gouvernement, le personnage de Monsieur Loyal est supprimé. Qu'on se le dise.
Pierre Dac interprétait son texte à l'occasion des fêtes de Noël, écrit lui aussi, finalement c'est une coïncidence bien sûr, mais coïncidence obligée également, à l'occasion des fêtes de Noël 43, donc pour la Radio Londres. Et puis nous commenterons également, puisque nous interrogions Pierre Bichet sur ses souvenirs de cette nuit de Noël à Malval, en vous lisant un extrait du texte auquel il faisait allusion et qu'il avait écrit donc en 45. Il semble que tout le pays est là, dans la petite église blanche, éclairée par la lueur tremblotante des lampes à carbure, lueur qui fait danser des ombres folles et réveille des coins d'ombre. Timidement, les vieux s'assoient, leurs bâtons entre les genoux, pendant que chacun se sert pour faire place aux nouveaux arrivants. Des femmes se sont jointes, mère, épouse, fiancée, elles apportent avec elles un peu de cette douceur, sans laquelle il n'est pas de véritable fête. Mais Guy paraît et présente le spectacle, la revue des Maguisards au cré des jours et des nuits, et pendant que s'illuminent péniblement les tréteaux de fortune et que les deux couvertures tenant lieu de toile de fond se transforment en d'imaginaires décors, cinq Maguisards, barbus et hilars, le crâne auréolé du légendaire béret de chasseur alpin, vêtu de cagoule de ski percée de trous et ornée de taches, animent avec beaucoup d'humour les mille péripéties des hors-la-loi. Ils évoquent la cuisine de fortune, le parachutage, le coup de main manqué, l'histoire de la vache, cette vache qui se refusait énergiquement à mourir et que seule une salve nourrie avait pu vaincre, et quatre gars chargés de ce dernier rôle beuglent désespérément sous la couverture qui les réunit tandis que le héros de la farce appuie un pied vainqueur sur la victime, mais les vieux montagnards de rire dans leurs moustaches. Le cœur de chant du maquis, pittoresque et coloré, fait suite à ce divertissement, Guy annonce « Ressuscitons Margot, franchons la joyeuse vivante » et tout ce peuple de filles, de moines et de beaux capitaines qui sont les héros de nos chansons. Histoire d'amour et de victoire, et chantent aussi les vieux de leur voix cassée, puis la pensée monte vers ceux qui, derrière les barbelés, subissent un Noël de plus, seuls avec leurs souvenirs. Des routiers chantent maintenant pour eux la complainte, aux terres de détresse où devons-nous sans cesse piocher. Un garçon parle de la résistance, de la volonté et de l'espoir, et tous ceux dont l'âme ne voulait pas se laisser achever. Enfin, merci à vous, paysans du Vercors, qui avez si bien su nous aider, nous comprendre et nous aimer, conclut d'un air grave Guy, le régisseur infatigable.
Quand nous étions le verre qu'on renverse, dans la verse un cerisier défleuri, le pain rompu, la terre sous la herse, où les noyers qui traversent Paris. Quand nous étions l'herbe jaune qu'on foule, le blé qu'on pille et le volet qui bat, le chantari, le sanglot dans la foule, quand nous étions le cheval qui tomba, quand nous étions des étrangers en France, des mendiants sur nos propres chemins, quand nous tendions au spectre d'espérance la nudité honteuse de nos mains. Alors, cela qui se levait, fût-ce un instant, fût-ce aussitôt frappé, en plein hiver furent nos primevères, et leur regard eut l'éclair d'une épée. Noël, Noël, ces aurores furtives vous ont rendu homme de peu de foi. Le grand amour qui vaut qu'on meure et vive, à l'avenir qui rénove votre foi. Oserez-vous ce que leur décembre ose, mes beaux printemps d'au-delà du danger. Rappelez-vous ce lourd parfum des roses, quand l'huile étoile au-dessus des bergers pleure la pourpre au cil des pâquerettes, ou s'il y perle une sueur de sang. Oublierez-vous la hache toujours prête, les verrez-vous avec des yeux absents. Le sang versé ne peut longtemps se taire. Oublierez-vous d'où la récolte vint, et le raisin des lèvres sur la terre, et le goût noir qu'en a gardé le vin.
Louis Aragon pour les paroles, H.J. Dupuis pour la musique, Monique Morelli pour l'interprétation, c'était Les Roses de Noël. Nous arrivons ainsi au terme de cette émission consacrée à des contes de Noël de Radio Canu. Et nous allons nous quitter avec l'interprétation de Pierre Tournière sur sa composition Paroles et musique, sa très belle chanson Nuit de Noël. Bonsoir.
La neige tombait sur la route, il faisait nuit depuis longtemps. Le vent poussait à la déroute, quelques oiseaux frileux dans le champ. Et l'homme avançait de l'allure, pressé de ceux qui rentrent tard. Dans la neige, ses chaussures laissaient des traces lourdes, c'était tard. La neige tapissait encore le fond de cette nuit de Noël. Quelques fenêtres brillantes encore se prenaient pour étoiles dans le ciel. Dans sa maison, un enfant rêve que son papa viendra bientôt, et qu'enfin vienne cette trêve des fusils pointés pour des drapeaux. Les flocons tombaient en rafale sur le clocher de la chapelle. Un chant parlant de cette étoile perçait la nuit glacée de Noël. Et l'homme avançait sur la route, ses pas s'effaçant peu à peu, pour que demain vienne le doute au lève-tôt d'ici trop curieux. La neige engourdissait les branches du vieux chêne vers le portail. Quand l'homme tourna la poignée blanche, le cœur gonfla soudain son chandail. À quelques pas de neige vierge, la maison dormait volet clos. Il allait refouler la neige après tous ses jours pris au plus beau. Quand la dame ouvrit la porte, elle ne connut point son mari. Quand la neige avait fait en sorte qu'il ressemblât au vieillard de minuit. Au petit jour chargé de brume, l'homme prit les petits souliers et glissa ces mots de sa plume: cadeau pour mon enfant, la liberté. La 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 la, la liberté.
Son frère, son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Claque. C'est pas de la rengaine à gaver les enfants, pas des dupes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Biston Claque. Mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance en même mètre de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais y'a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se redisent, ils noircissent le printemps, aucune chance qu'on les vise, mais on les claque. Thank you. son frère et son enfant. Quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. C'est pas de la rengaine à gaver les passants, pas des tubes que reprennent les gros gaillards d'avant. C'est des mots qui nous disent que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attise construit l'éternité. Quand il chante la femme, son frère et son enfant, quand un humain s'enflamme, c'est Bistoncle. Le printemps, qu'une chance qu'on les bise, mais qu'on les claque. Quand le fascisme avance sans même être de gants, il est temps qu'on repense et qu'on attaque. C'est pas par nostalgie du grand soir de Pépé, on brûle pas les bougies que mes mères adoraient. Mais il y a des mots pour dire que tout n'est pas joué, que le feu qu'on attire construit l'éternité. Quand les cons se raidissent, ils noircissent le printemps, qu'une chance qu'on les mise, mais on les claque. On se bise, on se...